Aïe, passez la pelle pour les manouais, passez la pelle, c'est ma ticket, passez la pelle, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour
les. Éloignez-vous les mauvais esprits, éloignez-vous de nous la maladie, que la journée se passe bien, que les âmes reviennent.
Pendant la transe, je maîtrisais rien du tout, j'étais un petit peu comme un pantin. Mais c'est un vrai choc.
Épisode numéro 1, les chamans ou les mondes de l'invisible.
Nous allons appeler les esprits par le chant. Vous entendrez ça tout à l'heure. Ah, je meurs. Tu cries.
Voyage en terre indigène. Une mémoire des hommes qui s'efface.
Anna.
Une série d'Anne Pastor.
Indiens, pygmées, aborigènes, inuits, les peuples premiers sont près de 370 millions à vivre ou à survivre parfois en Afrique, en Asie, en Amazonie ou au pôle Nord. Souvent réduits à l'image de primitifs, menacés par la mondialisation, ils sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors, peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, direction Sumatra en Indonésie et l'Amazonie en Équateur. Qu'on l'appelle Yatchak en Amazonie ou Sikerei en Indonésie, le chaman, littéralement celui qui gesticule, est celui qui voit, qui sait et qui soigne. Il est à la fois guérisseur, prêtre, psychologue, conseiller et gardien des esprits dont il est le messager. Au milieu de la forêt amazonienne, chez les Sariaku, c'est grâce à sa connaissance des plantes notamment que le chaman a le pouvoir de guérir. En Indonésie, au large de Sumatra, chez les Mentawai, c'est à travers la transe et les tambours qu'il gagne le monde des esprits et invite les âmes à rester dans les corps. Deux peuples, deux continents et un même voyage dans le monde de l'invisible.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
Nous sommes comme des soldats qui partent à la guerre. Oui. Appelez tout le monde. Venez autour des tambours, ça va commencer.
En Indonésie, chez les Mentawai.
Je suis Aman Sindereg, le chef de cette maison. On a mis en route la musique avec des tambours pour faire savoir plutôt à l'extérieur qu'on va commencer la fête. C'est aussi pour appeler les gens de la famille qui ne seraient pas encore arrivés à venir. Ils vont entendre ça de très très loin parfois. Et c'est une manière aussi pour nous les chamans de prendre de l'énergie, d'être de plus en plus chaud pour avoir plus de force et pouvoir après les appeler les âmes et les esprits. Alors on va y aller. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés dans le cours d'eau plus haut. Et donc on est obligé de prendre des toutes petites pirogues traditionnelles et on va mettre 5 heures pour arriver dans leur Ouma, à la maison clanique. Et on va suivre les Sikerei qui peuvent communiquer avec les esprits. Le but des chamans, c'est de réharmoniser les rapports entre l'âme et le corps. L'âme en soi, elle a sa vie à elle. Elle peut vagabonder autour, elle a des choses à faire qui ne sont pas liées avec le corps. Mais de temps en temps, il faut la rappeler. Parce que si elle s'éloignait trop, la personne pourrait tomber malade, voire mourir. Et ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est aussi réharmoniser les rapports entre les hommes, c'est-à-dire ressouder le clan, bien sûr, mais aussi entre les hommes et les esprits, entre les hommes et les ancêtres.
Il aura fallu 5 heures de pirogue au cœur d'une jungle luxuriante et humide, infestée de moustiques, pour arriver sur le territoire des Mentawai. On les appelle les hommes-fleurs, car ils portent sur la tête des fleurs d'hibiscus et sont en totale harmonie avec la nature. Loin de la civilisation, ce peuple de cueilleurs et de chasseurs vit éparpillé dans la forêt et continue à pratiquer des rituels ancestraux. Ils se retrouvent lors des cérémonies dans leur maison clanique en bois, sur pilotis, au bord de la rivière. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Les Sikerei, les chamans locaux, ont rendez-vous avec les esprits et les âmes. tout le monde s'est fait beau autour d'Aman Sigarey, le chef de la maison.
Je me suis fait beau pour la cérémonie. C'est une manière pour moi d'être en accord avec ce que je suis, que mon âme elle soit avec moi.
Et alors il y a des couleurs qui reviennent, le jaune, le orange, le rouge, les couleurs des hibiscus. Ce sont des couleurs qui plaisent beaucoup aux âmes.
Oui, nous on aime bien ces couleurs. Ça nous vient de nos ancêtres d'utiliser ces couleurs. Alors c'est sûr, on a le rouge comme l'hibiscus. Cette couleur, on la prend souvent d'une écorce. Après le jaune, on le fait souvent avec le gingembre. Et le noir, on le fait avec de la cendre. Ça nous aide à être plus fort, à être vraiment dans notre essence de chaman.
Alors vous, les femmes de chaman, vous avez revêtu votre plus belle tenue, vos colliers de perles, votre couronne, les dents aussi élimées et pointues pour certaines, une belle ceinture de perles de toutes les couleurs.
Nous, on est des femmes de Sikirei. On doit faire comme nos maris. Nous, on n'a pas ce collier de chaman, mais on a ces perles bleues sur le bras. Et on a le louat, c'est-à-dire le bandeau en perles dans les cheveux. Il faut être beau aussi pour les invités, il faut être beau pour les esprits. Cette personne ici disait, moi, je veux être belle comme un oiseau. Alors là, nous sommes dans la Houma, c'est-à-dire c'est la grande maison du clan où on se réunit pour les fêtes. Regardant vers l'intérieur de la maison, on a les crânes des cochons. Ce sont les animaux domestiques, ils regardent vers l'intérieur. C'est-à-dire c'est un lieu où leur âme doit se sentir bien. Et puis de l'autre côté, à l'intérieur de la maison, on a des rangées de crânes de singes. Eux regardent vers la forêt parce que c'est leur habitat. Ils appellent les âmes des singes. Ok, vous pouvez venir ici, on y est vraiment très très bien. Alors, il y a beaucoup de décorations pour qu'ils se sentent bien. On a des oiseaux en bois qui ont été sculptés. Il y a quelques plantes qui pendent, séchées aussi, c'est pour imiter la forêt.
Ce soir, il y a donc quatre chamans qui sont là et qui vont vous accompagner dans cette fête.
Et oui, avant la fête, il faut qu'on se réunisse et on va chanter ensemble. Et le but, c'est d'harmoniser en fait, ce qu'ils appellent leur badjou, c'est comme... Une émanation de l'âme. C'est-à-dire certains Sikirei ont une énergie plus forte que les autres et il faut que tout le monde soit au même niveau.
Comment est-ce qu'on devient Sikirei?
Généralement, les gens deviennent Sikirei vers l'âge de 20 ou 25 ans. Mais le principal, c'est qu'ils aient vraiment envie de faire ça et qu'ils soient capables de suivre tous les tabous. Et ça, c'est pas facile. Mais par exemple, pour eux, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de couper du bois. Ils n'ont pas le droit de tuer des animaux et ils doivent rester très propres. Et c'est très important qu'ils soient en harmonie, tous les quatre. Parce qu'à un moment, leur esprit doit en fait être un seul esprit pour pouvoir lutter contre les mauvais esprits, justement. Ils appellent les âmes à venir participer, où qu'elles soient. Ils veulent sacrifier un poulet. C'est l'esprit du poulet, en fait, qu'ils vont utiliser aussi pour satisfaire les esprits. Ils demandent aux esprits, avec l'aide de l'esprit de la poule, de protéger ses invités pendant toute cette période, que les âmes de chacun reviennent dans le corps. Et maintenant, normalement, ils devraient chanter ensemble. Le son, c'est aussi, ça participe de l'harmonie. C'est une chanson pour rappeler les âmes qui se seraient éloignées. Et donc, il faut les faire revenir tout doucement, tout doucement. C'est comme une caresse. Je trouve ça très émouvant, ces chants. Ils sont vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est très hypnotique. Oh.
Vous êtes en terre indigène avec Anne Pastor sur France Inter.
Voilà, ça s'active. Le chef de maison vient d'appeler les chamans et vient de dire « Allez, on y va, on va couper les plantes pour la cérémonie. »
Dans sa prière, il demande aux esprits du lieu la permission de prendre ses morceaux d'écorce, etc., en expliquant à ses esprits qu'il en a besoin pour la cérémonie à la maison tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on va utiliser ce soir sur tout le monde. On le frotte sur près du cœur. C'est comme si on prenait un bain pour, je pense, une sorte de purification.
Voilà, Terocha a choisi une plante, et il se masse et il se purifie le corps avec.
Ce sont des plantes aromatisées et cette odeur repousse tout ce qui est mauvais esprit. C'est vraiment, ça ressemble à de l'anis. Hein. Il y a quelques années, j'ai rencontré deux ethnobotanistes qui travaillaient ici pour savoir ce que les chamans utilisaient. Et c'était très intéressant parce que ils disaient que les chamans partaient chercher des médicaments sans savoir ce qu'ils allaient chercher souvent. Par contre, à 90%, pour une même maladie, ils prenaient la même plante. C'est-à-dire que l'intuition, et ils savent en fait très très bien ce qu'ils vont prendre. Cette tige, c'est le katsaila. C'est une plante qui sert à repousser la maladie. Ce savoir, je le connais de mon père, mais il vient de beaucoup plus loin. Il vient de mes ancêtres, jusqu'au premier chaman, Pageta Sabao. Pageta Sabao connaissait toutes les plantes de la forêt, absolument toutes. Et il a transmis essentiellement la plante de Kaitsala, celle-là, qui est la plus importante pour nous. C'est celle qui est symbolique de cette transmission qui va relier aux générations futures. Celle-ci, avec des nervures très rouges, est très importante parce qu'elle va permettre, en frottant cette plante sur la personne, à ce que l'âme reconnaisse le corps où elle doit aller. Elle ne va pas se tromper de direction. Tout autour, il y a d'autres plantes. C'est des plantes, en fait, protectrices. C'est-à-dire que les mauvais esprits qui pourraient venir, ils vont voir qu'il y a ces plantes-là qui sont là. Ils vont dire, là, on ne peut pas s'approcher, il ne faut pas s'approcher. Et donc, les mauvais esprits vont rester loin. Ils s'appellent entre eux, là. Est-ce que tu as trouvé celle-ci? Qu'est-ce qui nous manque? Voilà, je suis rentré à la maison avec les plantes, mais en même temps j'ai sonné le gong pour prévenir aux alentours qu'il y avait une cérémonie qui commençait. Et maintenant ça signifie aussi pour les gens qui sont ici de rester ici, ils ne peuvent plus partir.
Et à peine arrivé dans la maison, le sikérail se précipite dans l'autre pièce, là où il y a le fétiche, et il a à la main toutes ces plantes.
Alors, dans la pièce à l'arrière, il y a le bakat kaisala, on appelle. C'est un bambou, en fait, avec un ensemble de plantes qui ont été utilisées lors des anciennes cérémonies. C'est-à-dire, quelque part, c'est la continuité. Et c'est le fétiche de la maison, c'est l'âme de la maison qui est là. Éloignez-vous les mauvais esprits, éloignez-vous de nous la maladie, toutes ces choses-là, que la journée se passe bien, que tout le monde puisse être heureux, content, que les âmes reviennent. Et il a mis la plante de Kaitsala dans le fétiche de la maison. La prière, je demandais à l'esprit de mes ancêtres de nous aider à appeler nos âmes à se joindre à nos corps et en même temps de tenir éloignés tous les mauvais esprits qu'il peut y avoir dans le corps.
La nuit est tombée et tout le clan est rassemblé à l'avant de la maison. Les femmes à droite, avec leurs couronnes de fleurs, envoûtent les ténèbres de leur champ, tandis que les hommes à gauche finissent de purifier la maison. La cérémonie va durer 4 jours et personne n'a le droit de quitter les lieux car un mauvais esprit pourrait s'inviter. Tout est prêt, le voyage peut commencer.
Là, maintenant, ce que on va revêtir nos parures pour pouvoir travailler.
Ça, c'est le luat.
C'est le bandeau pour les cheveux. Et ce que vous voyez, comme des fleurs, en fait, c'est de la laine, toujours jaune et rouge. C'est comme si on avait les cheveux plus longs. Au fur et à mesure où on met les habits, il y a quelque chose qui monte en nous.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun, dans votre petite valise, vous avez un miroir et que vous vous regardez.
Oui, il faut se regarder, il faut voir quelle allure on a pour appeler les esprits. Nous sommes comme des soldats qui partent à la guerre. Appelez tout le monde, appelez tout le monde. Venez autour des tambours, ça va commencer. Ils sont en train de chasser les mauvais esprits avec les bouquets de feuilles qu'ils ont. C'est comme s'ils balayaient les mauvais esprits vers la sortie.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter. En Indonésie, chez les Mentawai.
Il s'est passé quelque chose pendant l'appel des âmes. Il y a encore des mauvais esprits dans la maison. Et ils se mettent à les chasser de manière beaucoup plus violente maintenant. Et en même temps, il y a des âmes qui veulent entrer. Et alors, ils les poussent à rentrer, mais elles ressortent. Alors, ils essaient de la tirer à l'intérieur.
La maison, ça y est, purifiée. Il y avait quatre mauvais esprits dans la maison. C'est très très difficile pour nous de les chasser. Là, ça a été une grande bataille. Ils sortent, mais ils peuvent revenir. C'est une bataille qui va continuer. Maintenant, on va danser pour réjouir nos âmes et qu'elles viennent nous rejoindre et aussi pour que nous, on s'amuse bien. Les âmes, elles sont tout autour de la maison maintenant, mais elles attendent. Elles regardent comment on danse, elles regardent si c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment qu'on les séduise. Et c'est ce que notre ami, à l'entrée, est en train de faire. Il les appelle, il leur dit de venir, qu'elles vont être bien ici, avec nous. S'est joint à la danse. Selon certains, ici, elle a commencé à danser parce que son âme veut rentrer dans son corps. Il pense que son âme est très très proche. Elle peut entrer en transe d'un moment à l'autre. Elle continue toute seule. Elle rentre en transe. Magnifique, son mari l'accompagne dans la transe. Et un chaman l'aide. Il l'aide à récupérer son âme.
Voilà, tout le monde est autour d'elle. Elle est en train de respirer et de reprendre peu à peu conscience.
Ce qui s'est passé, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive. Il n'y a pas de mauvais esprit sur elle, rien du tout. C'est simplement que son âme a du mal à rentrer dans son ventre. À l'intérieur. Il faut se relâcher pour que l'âme rentre.
Et elle continue toute seule à chanter. Un chaman est en train de s'occuper d'elle.
Qu'elle aille jusqu'au bout de sa transe. Là, ils la refont danser pour que ce qui doit rentrer rentre, ce qui doit sortir sorte. Mais c'est pas elle qui danse, c'est son âme qui danse.
Et ça va de plus en plus vite. Hein. Il revient peu à peu à elle. Comment vous vous sentez maintenant?
Oh, oh.
Je suis pas fort,
je rentre facilement dans cet état de transe. Ouais, on croit qu'elle n'est pas tout à fait sortie de la transe. Il y a encore quelque chose encore dedans. C'était bon.
Bagus.
Elle dit ça a commencé, j'ai senti par de la chaleur dans les pieds jusqu'au cœur.
Effectivement, elle n'a pas l'air d'être redevenue totalement dans son état normal.
Ça
a été très compliqué parce qu'il y a l'âme de mon père qui est venue. Il dit que c'était très difficile, j'essayais de le caresser pour qu'il s'en aille, c'est plus sa place. Et puis il revenait. Et ça a empêché mon âme à moi aussi d'arriver, de venir dans le plat. Alors ça a été tout un travail très très lent, très très lent. Mais à la fin on a réussi.
Voyage inter-indigène. Souffrance inter.
Comment vous vous sentez maintenant?
Oui, ça va mieux parce que ça y est, il n'y a plus de conflit à l'intérieur entre moi et mon âme. Tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si mon âme me menaçait. C'est ce que je ressentais. Maintenant, ça y est, l'harmonie est venue, je me sens bien.
Corinne Sombre, on va dire exploratrice de l'invisible. Pour moi, ça a été la chose la plus difficile à accepter. C'est que pendant la transe, je ne maîtrisais rien du tout. J'étais un petit peu comme un pantin. C'est un petit peu comme si nos sens, dans cet état-là, travaillaient à un niveau 2 de perception. C'est plus subtil. Donc le nez ne sent plus des odeurs, mais c'est comme s'il sentait des dissonances, des choses qui ne vont pas. Donc il se met à renifler les endroits où ça ne va pas. Et une fois qu'il a reniflé et perçu des choses qui étaient dissonantes, il va se mettre tout seul à faire des gestes, des sons, des chants absolument inconnus, qui sortent tout seul, comme ça, et dont on a l'impression qu'il répare la dissonance. C'est infini. Et c'est tellement, tellement enrichissant. Parce qu'on est ouvert complètement. Dans ces états-là, on est ouvert à tout ce qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'on n'existe plus, on n'est plus rien et on devient tout.
Loin de l'Indonésie et des Mentawai, Corinne Sombrin, ethnomusicienne et écrivain, vit à Paris. Elle a connu l'expérience chamanique, une expérience qui a bouleversé sa vie et qui l'a conduite jusqu'en Mongolie, tout près du lieu de naissance des premiers chamans. Un voyage dans l'invisible qui commence dans une galerie d'art à Londres le 4 novembre 1999. Ce soir-là, Corinne rencontre le peintre amazonien Francesco Montechuna.
En fait, lui m'a dit, à propos de ses peintures et de sa culture, qu'en chacun de nous existait un son. Et que si, grâce à la prise de certaines plantes en Amazonie qu'il connaissait, si on arrivait à retrouver ce son et à le chanter, on pouvait rééquilibrer ses énergies, on pouvait être beaucoup mieux. Bien sûr, en tant que musicienne, ça m'a beaucoup intéressée et j'ai décidé d'aller là-bas. Donc je devais parler à une plante qui s'appelle la rosacha, qui est censée enseigner les rêves. Alors, je disais au chaman, mais attends, je sais rêver, mais qu'est-ce qu'elle va m'apprendre la plante? Et il m'a dit, gna gna. Tu crois que tu sais rêver, mais en fait, dans tes rêves, il y a ce qu'on appelle les messages des esprits. Chaque plante a son chant, en fait. Et donc, j'ai appris ce chant, et après, je me suis retrouvée dans la jungle avec la plante devant moi, qui est une espèce de petit truc rabougri qui a l'air de rien. Et je lui chante la chanson, en me retournant, bien sûr, pour savoir s'il n'y a personne qui me regarde, tellement je me sens crétine de faire ça. Et quelques semaines après, je fais un rêve. Et ce rêve, c'est un jeune homme qui me dit « Mais prends cette feuille, mets-la contre ton oreille. » Donc je le fais dans ce rêve. Et j'entends un chant diphonique. Et en tant que musicienne, je sais que ce chant diphonique est pratiqué chez les Touva, en Mongolie. Donc je me pose la question à ce moment-là. Et je me dis bah, « Tiens, est-ce que c'est un signe de ces esprits ?» Et j'ai suivi ce signe. J'ai dit « Il faut vraiment que j'aille voir. » Et je me souviens surtout de ce que m'ont dit les Mongols la première fois que je suis allée en Mongolie. Ils m'ont dit « Chez nous, l'invisible, c'est utile. » Le rôle du chaman là-bas, ça va être d'entrer en transe grâce à un gros tambour. Le problème, c'est que dès que j'ai entendu les premiers sons de ce tambour, ça a fait un effet sur moi que je n'attendais évidemment pas. Je me suis mise à trembler et je commençais à trembler de plus en plus, puis à sauter et puis je me suis mise à hurler comme un loup en fait. J'avais l'impression vraiment d'être cet animal, d'avoir une truffe à la place du nez, d'avoir des pattes à la place des mains. Et le pire dans l'histoire, c'est que je me rendais compte de ce qui se passait, que je me transformais, que j'étais plus Corinne. Mais j'avais plus aucun contrôle. Voilà comment a débuté cette première rencontre avec un tambour de chaman en Mongolie. Le fait que le tambour me fasse cet effet voulait dire que j'avais reçu le don. Alors ce don, ils appellent ça l'étincelle chamanique. Et qu'à partir de là, je devais être formée. Ce qui voulait dire passer 3 ans avec un chaman qui serait chargé de me transmettre la connaissance. Et probablement, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans mon cerveau qui a fait que tout d'un coup, il y a eu une transformation et que j'ai un autre accès à la réalité. Et que j'accède à ce qu'ils appellent ce monde des esprits. On voit des personnages, on voit des animaux, on a des informations. Et eux vous disent, quand on apprend à leur poser des questions, parfois on a des réponses. Après, vous avez chaque chaman qui va développer d'autres dons. Alors ces dons vont se développer en fonction, disent les chamans, des esprits qui vont venir vous posséder pendant la transe. Par exemple, Inketuya travaille avec un esprit qui est un esprit cancanier. C'est un esprit simplement qui va lui rapporter les pensées des autres. Alors moi, apparemment, c'est un esprit qui serait plus guérisseur. Je me suis dit, il se passe quelque chose dans mon cerveau, le son du tambour doit probablement modifier son comportement, parce que quand le son du tambour s'arrêtait, je redevenais Corinne, ce que j'avais l'habitude de percevoir de moi. Alors je me suis dit, je vais aller essayer de rencontrer des scientifiques pour leur dire, faites des EEG de mon cerveau dans cet état. Donc ils m'ont mis des électrodes sur la tête, au repos déjà, puis après j'ai induit une transe. Voilà. Donc la première transe et toutes les batteries de tests qui m'ont fait passer ont démontré que j'avais un cerveau sain. Et en revanche, pendant la transe, le professeur Florent Ry m'a dit qu'il était très, 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 très inquiet. Pour lui, c'était un état de psychogénéralisé, la transe. Ces EEG nous ont montré que la transe était bien due à une modification du comportement du cerveau. Donc, c'était quelque chose auquel on avait probablement tous accès. En tout cas, ces recherches ont libéré la parole là-dessus et plein de gens aujourd'hui me disent qu'ils ont eu des perceptions très bizarres, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas identifiées, mais qui sont intéressantes parce qu'elles parlent d'une autre façon d'accéder à la réalité. Mais cette vision augmentée de la réalité est quand même un outil auquel on ferait bien de s'intéresser énormément. Voilà.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
All live life without a care and keep on dreaming. When I'm feeling low and there's nowhere for me to go, no. I just close my eyes and keep on dreaming. Life should be simple and free. Wrap those arms around me. Life should be simple to see. Life should be simple to read. Be who you wanna be and keep on dreaming. You won't have to fake it. of what you make it, and you won't have to fake it. Fresh air, oh, live life without a care, and keep on dreaming. I just close my eyes and keep on dreaming of you.
On guérit les personnes, les malades le sentent. N'importe quelle douleur. Avant, ils souffrent.
Qu'est-ce que vous faites chauffer ?
Une grosse liane, cela s'appelle ayahuasca. Je la prends là-haut, sur la colline. Si on tient bon avec l'ayahuasca, on voit tout dans les arbres. Ils chantent beaucoup de chants pour rappeler tous les esprits. Et oui.
Le chamanisme a longtemps été perçu comme des diableries. Diderot et ses collègues, en 1765, définissent le chaman comme un imposteur qui prétend avoir un commerce avec le diable et qui trompe un peuple superstitieux et imbécile. Et il a fallu arriver à la fin du 19e siècle et à la naissance de l'anthropologie pour sortir de ces préjugés eurocentriques. Le monde occidental a découvert la psychothérapie seulement dans les années 1920, donc il a fallu d'abord qu'elle existe pour qu'on comprenne ensuite que le chamanisme y ressemblait.
Voyage en terre indigène. Souffrance en terre. En Équateur, chez les Sariaco.
On communique à travers l'ayahuasca, à travers les rêves aussi. On ingère des plantes qui nous font rêver. Les plantes sont des personnes et on sait reconnaître les arbres qui possèdent beaucoup d'esprit. Ici, il y a les êtres vivants. Ils sont là, tout près, dans toutes les montagnes. On ne les voit pas à simple vue, mais de manière invisible. Quand on prend de l'ayahuasca, on voit des fils connectés entre eux.
La Huayasca, surnommée la liane des esprits ou la liane des morts, est classée au patrimoine national culturel du Pérou. Elle est une des plantes utilisées par les chamans d'Amazonie pour entrer en transe et accéder au monde de l'invisible. Les visions qu'elle procure auraient le pouvoir de guérir l'âme et le corps en permettant aux chamans, qu'on appelle ici Yatchak, de dialoguer avec les esprits. Don Sabino est le chaman de la communauté Sariaku, au cœur de la jungle équatorienne, à plus de 8 heures de pirogue de la première ville. C'est en restant près de 20 ans dans la forêt, à étudier les plantes et à échanger avec les esprits, que Don Sabino est devenu Yatchak. Une vie de dévouement qui lui vaut un immense respect de sa communauté.
Oui, il connaît les plantes médicinales, les arbres qui ont un esprit. Oui, Don Sabino sait nous le transmettre. Il prend de l'ayahuasca une fois par semaine. C'est ce qui le rend bien plus savant que nous. C'est de là qu'il tire sa connaissance des plantes. Au moment de la cérémonie de l'ayahuasca, il nous raconte ses visions du monde. Il nous explique tout ce qui va arriver. Les ancêtres ont vu à travers l'ayahuasca qu'ils devaient s'installer ici. Il disait que ces montagnes parlaient avec les chamans. Elles les avertissaient en cas de problème. En entrant en contact avec elles, grâce à l'ayahuasca, dans les rêves, ils savaient tout ce qui se passait dans le monde. Ces montagnes étaient comme les sentinelles de chamans.
Je m'appelle Jérémy Narbi et je suis un anthropologue qui travaille avec les peuples amazoniens depuis une trentaine d'années. Les Amazoniens qui utilisent l'ayahuasca la décrivent comme étant une plante maîtresse, maîtresse comme la maîtresse d'école. Ça veut dire qu'elle vous enseigne des choses à propos des autres plantes et aussi des animaux et sur toutes sortes de sujets. Donc ils considèrent l'ayahuasca comme une sorte d'être qui donne accès à une communication avec les autres êtres. Et les Indiens utilisent donc cet extrait de la liane ayahuasca pour étudier les propriétés d'autres plantes. Et donc, si vous voulez savoir si une plante donnée a des propriétés médicinales, vous la mélangez avec votre extrait de liane ayahuasca et ça va vous donner des indications. Et donc, la liane fait partie de leur façon d'explorer systématiquement les propriétés des plantes. Et donc, ce serait dans le Napo, il y a plusieurs centaines d'années, que des chamans indigènes auraient mis au point la recette moderne de l'ayahuasca.
Si, c'est pas bien.
Don Sabino, vous nous avez donné rendez-vous à 5 heures du matin. C'est le meilleur moment pour parler.
À las 4, à las 3, levantamos de repente.
Je me lève vers 3-4 heures du matin pour prendre la guayusa.
Ah, tomar guayusa.
Et ensuite, je travaille.
Para ir trabajar. Ahí sí conversamos alguna...
Je raconte les légendes.
La historia es aquí apellido de Nango. Esos primeros gentes, según conversaban los...
Selon nos anciens, les deux plus anciennes lignées étaient les Hernango et les Gualinga.
Gualingas permanecían mucho antes.
Les Gualinga vivaient il y a encore plus longtemps et se transformaient en tigres
et, boa.
Et en boa.
Les Gualinga, apellido Gualinga. Yo no sé, yo tenía una plantita, pumayoyo.
Ils connaissaient une plante, la pumayoyo.
Tres veces, nada más. Y me he soñado anoche un tigrillo así.
Et en en prenant juste trois fois, j'ai vu un petit tigre qui se léchait doucement.
Así soñando, ya sigan tomando. Tres meses tomando para volver a saber.
Mais en continuant à rêver et en prendre pendant trois mois, alors on atteint la connaissance et on peut voir cet esprit.
Para llamar espíritu del mundo.
On pratique des cérémonies pour certaines choses.
Pour
guérir, pour appeler des esprits, también. Pour appeler le boa aussi.
No es boa cuando en ayahuasca es vuelve como barco.
Le boa, lui,
lanche.
Il apparaît comme une espèce de pirogue pour voyager.
La première chose que les gens voient avec l'ayahuasca, ce sont des animaux. Et les animaux les plus communs dans les visions sont effectivement les serpents. Le serpent revient déjà dans les cosmovisions, dans les mythologies, dans les histoires des peuples indigènes qui utilisent l'ayahuasca. La mère de l'ayahuasca est un serpent. Comme si l'essence de la plante, lorsqu'elle se représentait à notre conscience, elle le fait sous forme d'un serpent. On peut transposer ça assez facilement à ce que la biologie moléculaire a découvert au milieu du XXe siècle sous forme de molécules d'ADN, c'est-à-dire qu'il y a vraiment à l'intérieur de toutes les cellules, de tous les êtres vivants, dans le noyau, une entité qui a la forme de deux serpents entrelacés ou d'une échelle torsadée et qui est le substrat même de l'hérédité et de la parenté que nous avons avec les autres êtres. À ce niveau-là, ce que les chamans amazoniens racontent et ce que les biologistes moléculaires raconte se recoupe.
Après une longue marche dans la forêt, bercée par le son des toucans et des singes hurleurs, Don Sabino est parti seul dans ces montagnes. C'est ici, dans son chakra, son jardin, qu'il vient chercher les plantes nécessaires à la préparation de l'ayahuasca. Il a décidé qu'une cérémonie devait avoir lieu pour rétablir l'équilibre de la communauté et remettre les choses à leur place.
Bonjour, je m'appelle José Luis Walinga. Je suis le petit-fils de Don Sabino. J'ai 28 ans. Je suis préparateur d'ayahuasca. L'accès est réservé ici à ceux qui peuvent se tenir tout près de l'ayahuasca, et aussi aux préparateurs et à l'assistant. Les femmes enceintes, par exemple, les enfants nus ou les animaux ne peuvent pas être ici, près de l'endroit où l'on prépare l'ayahuasca.
Et en fait, dans la marmite, il y a plusieurs plantes.
Il y a aussi une espèce similaire à l'ayahuasca. C'est une liane, elle aussi, mais dont on utilise seulement les feuilles. L'ayahuasca a un effet corporel, il réanime le corps, tandis que l'autre plante ouvre l'œil. L'ayahuasca est un mélange. C'est comme une grande rivière. La rivière commence avec la première goutte de pluie. La feuille, elle est le point de départ pour regarder, pour avoir des visions. Voilà pourquoi on combine les feuilles, qui ne sont que de deux sortes, l'ayahuasca et le yaqui.
Tout au long de la cérémonie, c'est Don Sabino qui va vous guider dans votre chemin.
Oui, c'est toujours lui qui nous guide. Dans les visions négatives, quand mon esprit va mal, j'ai toujours senti qu'il m'a beaucoup aidé, toujours, même quand je me trouvais loin. Les jolis rêves, les bons rêves que je fais, c'est parce que mon grand-père est toujours là. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des mois, mais nous étions rarement ensemble tous les deux. Je voulais lui demander un peu d'énergie. Aujourd'hui, il va peut-être y avoir ce transfert d'énergie.
Nous allons appeler les esprits par le chant. Vous verrez ce que je vais prendre, vous verrez ce que je vais invoquer. Ah, je meurs. Il faut tenir bon, je les ai tous vus. Si on tient bon avec l'ayahuasca, on voit tout dans les arbres. Ils chantent beaucoup de chants, quelques chants perdurent pour rappeler tous les esprits.
Le chaman fait office de porte-parole où il prête sa propre voix aux esprits.
André Alos, Gutiérrez Choquevilca, anthropologue.
Et il y a peut-être une particularité chez ces populations, c'est que ces chants peuvent être à la fois énoncés sous une forme articulée, mais qu'ils peuvent être aussi pensés intérieurement. C'est d'imaginer qu'un son puisse être silencieux en quelque sorte, puisse être inaudible. Et la plupart de ces chants sont transmis au chaman sous une modalité qui n'est pas du tout celle du langage articulé, de la communication ordinaire, mais la plupart de ces chants sont transmis à travers des voix d'esprit, parfois des voix animales, qu'il s'agit pour l'initié de répéter et de s'approprier en quelque sorte, d'intérioriser.
Et vous avez pu rentrer en communication avec eux ?
Bien sûr, j'ai communiqué avec eux. C'est pour cela que je chante, pour nettoyer les personnes. J'invoque une autre sorte d'esprit pour protéger la forêt. Nous avons toutes sortes de chants. Ils ont tous un nom différent. Pour invoquer Yakoruna, Satcharuna. Ce sont des personnes bénéfiques, spirituelles. Ici, on peut voir passer un grand ours, mais on ne le connaît que spirituellement. Par là, on a fait passer un boa. C'est mon oncle qui a réussi.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter.
José Luis, je vous voyais tout à l'heure discuter avec votre grand-père, Don Sabino. Vous avez l'air d'être très très proche de lui. Et puis, Don Sabino a commencé à vous apprendre à devenir un sage, à connaître la préparation de l'ayahuasca.
D'une certaine manière, il a transmis à tous ses enfants, à toute sa famille, l'histoire. Son histoire et tout ce qu'il a appris, lui. Il nous a raconté ses rêves, il nous a enseigné les plantes. Il nous a appris à marcher dans la forêt. Mais la décision de prendre le chemin des plantes médicinales appartient à chacun, en fonction de ce qu'il a rêvé. Peut-être qu'il le ressent. Je suis curieux par nature. J'ai toujours aimé ce chemin. Partout où je vais, je crois que cela l'incite à m'encourager ou à me donner quelques indications pour suivre ce chemin.
Tout chaman peut choisir aussi son élu pour lui transmettre ses savoirs. Auquel cas, cette transmission va avoir lieu à travers la transmission de substances, notamment de salive, de la part du chaman maître, souvent à l'intérieur de la famille. Et dans ces cas-là, parfois, c'est même dès le berceau que certains savoirs sont transmis au moyen notamment du souffle, de la fumée, par exemple de la fumée de tabac, ou au moyen du chant. Là, il s'agit d'un savoir qui n'est pas accessible à tous, dont le principe est qu'il est transmis dans un certain secret. Et donc, il va passer par d'autres voies, par exemple, la transformation corporelle par le jeûne, la discipline du jeûne, c'est-à-dire l'abstinence alimentaire, l'abstinence sexuelle, évidemment, mais aussi par l'ingestion de substances, notamment végétales, des décoctions végétales, parfois toxiques, qui vont transformer le corps de l'apprenti. Et donc cet apprentissage qui est cumulatif va durer effectivement tout au long de la vie. On peut tout au long de sa vie continuer d'apprendre des chants nouveaux et auprès de maîtres nouveaux.
C'est un honneur et en même temps c'est beaucoup de responsabilité pour le jeune homme que vous êtes.
Oui, c'est très beau, mais c'est très dur aussi. Cela donne des responsabilités, des contraintes, surtout en ce qui concerne les règles alimentaires ou les gens qu'on peut fréquenter. Ce sont des études, mais c'est une responsabilité plus lourde qu'à l'université. L'université, ça dure un an, deux ans, trois ans. Si tu veux devenir un vrai maître, il faut y consacrer ta vie. Il faut aller beaucoup plus loin. Alors tu dors mal, tu es toujours à l'affût de tes rêves, toujours à guetter tes mauvais rêves, car le monde n'est pas toujours positif, il y a deux facettes.
Et dans le même temps, cet accès aux savoirs ancestraux, qu'est-ce que ça vous apporte à vous qui êtes un jeune homme et qui êtes entre Quito pour les études et Sarriacou, votre communauté ?
Dans les villes, les gens ont un faible niveau d'énergie spirituelle. Ils ne se sentent pas les uns les autres. Ils vivent chacun de son côté, chacun vaquant à ses affaires. Ce monde invisible m'a aidé à rêver, à avoir confiance en ma famille. Oui, ça m'a aidé à rêver. En ville, quand il y a un danger, tu le vois en rêve. Ici, ma famille m'a appris à interpréter les rêves. Quand je rêvais de voyage, par exemple, je voyageais. Quand je rêvais d'un groupe, j'étais avec ce groupe. Dans ton sommeil, tu restes aux aguets. Ton cerveau vit sur un plan spirituel ce que tu vas vivre dans ce monde. Et j'ai appliqué tout ça. Cela m'a aussi fait comprendre que la connaissance occidentale ne nous est pas absolument nécessaire.
Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de femmes sont tentés par l'expérience du chamanisme.
Un tourisme s'est même développé, conciliant quête de soi, recherche spirituelle et engagement écologique. Mais ce néo-chamanisme risque de transformer à jamais un des piliers de ces sociétés traditionnelles en simple folklore, bien loin de l'essence d'un chaman au service de sa communauté et du monde.
Je ne sais pas qui restera dans ce monde. Ceux qui croient aux puissants du monde resteront. Les autres se perdront. Je ne sais pas où ils iront. Pas dans ce monde. Voilà ce que disaient les aïeux de mon père. Ils étaient en contact, eux, avec les puissants du monde, du ciel.
Djoubaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger ce voyage dans le monde de l'invisible avec le numéro spécial du magazine Ultreya sur le chamanisme et avec Clément Jacquemous de la fondation Barbier-Muller.
Durant la période soviétique, beaucoup de chamans ont été exilés. Certains ont été fusillés, mis à mort. Dans les mémoires se transmettent ces histoires de chamans qui parviennent à s'en tirer. On peut citer cette histoire de chamans qui ont été réunis dans une yourte. On a mis le feu et l'un d'entre eux s'est échappé par le trou à fumée. Du coup, a survécu et donc resté dans les mémoires.
Voyage en terre indigène, une série d'Anne Pastor.
Montage Thomas Lepias, mixage Kevin Pelot, un documentaire réalisé par David Rochier. Merci aux documentalistes de Radio France, à Christine Diger de France Culture, à la chanteuse Violeta Duarte pour les voix et Alexandra Carrasco pour la traduction espagnole.
Cette émission a reçu le soutien de l'agence Secret Planet et de la fondation Barbier-Muller.
La semaine prochaine, un voyage avec les gardiens de la nature. Nous irons au Rajasthan chez les Bishnoi et en Amazonie chez les Indiens Sariaku.
Le voyage continue sur franceinter.fr.